La prospérité porte avec elle une ivresse à laquelle les hommes inférieurs ne résistent jamais. Cette exaltation eut un résultat facile à prévoir. Grindot vint. Il présenta le croquis colorié d'une délicieuse vue intérieure du futur appartement orné de ses meubles. Birotteau, séduit, consentit à tout. Aussitôt, les maçons donnèrent les coups de pique qui firent gémir la maison et Constance. Son peintre en bâtiment, M. Lourdois, un fort riche entrepreneur qui s'engageait à ne rien négliger, parlait de dorure pour le salon. En entendant ce mot, Constance intervint. « Monsieur Lourdois, dit-elle, vous avez 30 000 livres de rente, vous habitez une maison à vous, vous pouvez y faire ce que vous voulez. Mais nous autres... Madame, le commerce doit briller et ne pas se laisser écraser par l'aristocratie. Voilà d'ailleurs Monsieur Birotteau dans le gouvernement, il est en évidence. »« Oui, mais il est encore en boutique, dit Constance devant ses commis et les 5 personnes qui l'écoutaient. Ni moi, ni lui, ni ses amis, ni ses ennemis ne l'oublieront. » Birotteau se souleva sur la pointe des pieds, en retombant sur ses talons à plusieurs reprises, les mains croisées derrière lui. « Ma femme a raison, dit-il. Nous serons modestes dans la prospérité. D'ailleurs, tant qu'un homme est dans le commerce, il doit être sage en ses dépenses, réservé dans son luxe. La loi lui en fait une obligation. Il ne doit pas se livrer à des dépenses excessives. » Si l'agrandissement de mon local et sa décoration dépassaient les bornes, il serait imprudent à moi de les excéder. Vous-même me blâmeriez, Lourdois. Le quartier a les yeux sur moi. Les gens qui réussissent sont des jaloux, des envieux. Ah, vous saurez cela bientôt, jeune homme, dit-il à Grindot. S'ils nous calomnient, ne leur donnez pas au moins lieu de médire. Ni la calomnie ni la médisance ne peuvent vous atteindre, dit Lourdois. Vous êtes dans une position hors ligne et vous avez une si grande habitude du commerce que vous savez raisonner vos entreprises. Ha, vous êtes un malin. C'est vrai, j'ai quelque expérience des affaires. Vous savez pourquoi notre agrandissement? Si je mets un fort dédit relativement à l'exactitude, c'est que... Non? Eh bien, ma femme et moi nous réunissons quelques amis autant pour célébrer la délivrance du territoire que pour fêter ma promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur. Comment, comment, dit Lourdois, ils vont s'en donner la croix? Oui, peut-être me suis-je rendu digne de cette insigne et royale faveur en siégeant au tribunal consulaire et en combattant pour la cause royale aux 13 Vendémiaires, à Saint-Roch, où je fus blessé par Napoléon. Venez avec votre femme et votre demoiselle. « Enchanté de l'honneur que vous daignez me faire, dit le libéral Lourdois. Mais vous êtes un farceur, papa Birotteau. Vous voulez être sûr que je ne vous manquerai pas de parole, et voilà pourquoi vous m'invitez. Eh bien, je prendrai mes plus habiles ouvriers, nous ferons un feu d'enfer pour sécher les peintures, nous avons des procédés dessiccatifs, car il ne faut pas danser dans un brouillard exhalé par le plâtre. On vernira pour ôter toute odeur. » 3 jours après, le commerce du quartier était en émoi, par l'annonce du bal que préparait Birotteau. Chacun pouvait d'ailleurs voir les étais extérieurs nécessités par le changement rapide de l'escalier, les tuyaux carrés en bois par où tombaient les décombres dans des tombereaux qui stationnaient. Les ouvriers pressés, qui travaillaient aux flambeaux, car il y eut des ouvriers de jour et des ouvriers de nuit, faisaient arrêter les oisifs, les curieux dans la rue, et les commérages s'appuyaient sur ces préparatifs pour annoncer d'énormes somptuosités. Le dimanche indiqué pour la conclusion de l'affaire, M. et Mme Ragon, l'oncle Pierrot, vinrent sur les 4 heures après vêpres. « Vu les démolitions, disait César, il ne put inviter ce jour-là que Charles Claparon, Crottat et Roguin. Le notaire apporta le journal des débats, où M. de la Billardière avait fait insérer l'article suivant. « Nous apprenons que la délivrance du territoire sera fêtée avec enthousiasme dans toute la France, mais à Paris, les membres du corps municipal ont senti que le moment était venu de rendre à la capitale cette splendeur qui, par un sentiment de convenance, avait cessé pendant l'occupation étrangère. Chacun des maires et des adjoints se propose de donner un bal. L'hiver promet donc d'être très brillant. Ce mouvement national sera suivi. Parmi toutes les fêtes qui se préparent, il est beaucoup question du bal de M. Birotteau, nommé chevalier de la Légion d'honneur et si connu par son dévouement à la cause royale. M. Birotteau, blessé à l'affaire de Saint-Roch, aux 13 Vendémiaires, et l'un des juges consulaires les plus estimés, a doublement mérité cette faveur. « Comme on écrit bien aujourd'hui !» s'écria César. « L'on parle de nous dans le journal » dit-il à Pierrot. « Eh bien, après !» lui répondit son oncle à qui le journal des débats était particulièrement antipathique. Cet article nous fera peut-être vendre de la pâte des sultanes et de l'eau carminative, dit tout bas Madame César à Madame Ragon, sans partager l'ivresse de son mari. Madame Ragon, grande femme sèche et ridée, au nez pincé, aux lèvres minces, avait un faux air d'une marquise de l'ancienne cour. Le tour de ses yeux était attendri sur une assez grande circonférence, comme ceux des vieilles femmes qui ont éprouvé des chagrins. Sa contenance sévère et digne, quoique affable, imprimait le respect. Elle avait d'ailleurs en elle ce je ne sais quoi d'étrange qui saisit sans exciter le rire, et que sa mise, ses façons, expliquaient. Elle portait des mitaines. Elle marchait en tout temps avec une ombrelle à canne, semblable à celle dont se servait la reine Marie-Antoinette à Trianon. Sa robe, dont la couleur favorite était ce brun pâle nommé feuille morte, s'étalait aux hanches par des plis inimitables et dont les douairières d'autrefois ont emporté le secret. Elle conservait la mantille noire garnie de dentelles noires à grandes mailles carrées. Ses bonnets, de forme antique, avaient des agréments qui rappelaient les déchiquetures des vieux cadres sculptés à jour. Elle prenait du tabac avec cette exquise propreté et en faisant ces gestes dont peuvent se souvenir les jeunes gens qui ont eu le bonheur de voir leur grand-tante et leur grand-mère remettre solennellement des boîtes d'or auprès d'elle sur une table en secouant les grains de tabac égarés sur leur fichu. Le sieur Ragon était un petit homme, de 5 pieds au plus, à figure de casse-noisette, où l'on ne voyait que des yeux, 2 pommettes aiguës, un nez et un menton. Sans dents, mangeant la moitié de ses mots, d'une conversation pluviale, galant, prétentieux et souriant toujours du sourire qu'il prenait pour recevoir les belles dames que différents hasards amenaient jadis à la porte de sa boutique. La poudre dessinait sur son crâne une neigeuse demi-lune bien ratissée, flanquée de 2 ailerons, que séparait une petite queue serrée par un ruban. Il portait l'habit bleu barbeau, le gilet blanc, la culotte et les bas de soie, des souliers à boucles d'or, des gants de soie noire. Le trait le plus saillant de son caractère était d'aller par les rues tenant son chapeau à la main. Il avait l'air d'un messager de la chambre des pairs, d'un huissier du cabinet du roi, d'un de ces gens qui sont placés auprès d'un pouvoir quelconque, de manière à recevoir son reflet, tout en restant fort peu de choses. « Eh bien, Birotteau, » dit-il d'un air magistral, « te repens-tu, mon garçon, de nous avoir écoutés dans ce temps-là? Avons-nous jamais douté de la reconnaissance de nos bien-aimés souverains ?»« Vous devez être bien heureuse, ma chère petite, » dit Madame Ragon à Madame Birotteau. « Mais oui, » répondit la belle parfumeuse, toujours sous le charme de cette ombrelle à canne, de ses bonnets à papillons, des manches justes et du grand fichu à la Julie que portait Madame Ragon. « Césarine est charmante. Venez ici, la belle enfant, » dit Madame Ragon de sa voix de tête et d'un air protecteur. « Ferons-nous les affaires avant le dîner ?» dit l'oncle Pierrot. « Nous attendons Monsieur Claparon, » dit Roguin. « Je l'ai laissé s'habillant. » « Monsieur Roguin, » dit César, « vous l'avez bien prévenu que nous dînions dans un méchant petit entresol. » « Il le trouvait superbe il y a 16 ans, » dit Constance en murmurant, « au milieu des décombres et parmi les ouvriers. »« Bah, vous allez voir un bon enfant qui n'est pas difficile, » dit Roguin. « J'ai mis Raguet en faction dans la boutique. On ne passe plus par notre porte. Vous avez vu tout démoli, » dit César au notaire. « Pourquoi n'avez-vous pas amené votre neveu ?» dit Pierrot à Madame Ragon. « Le verrons-nous ?» demanda Césarine. « Non, mon cœur, » dit Madame Ragon. « Anselme travaille, le cher enfant, à se tuer. Cette rue sans air et sans soleil, cette puante rue des 5 diamants, mais frais. Le ruisseau est toujours bleu, vert ou noir. J'ai peur qu'il y périsse. Mais quand les jeunes gens ont quelque chose en tête, » dit-elle à Césarine en faisant un geste qui expliquait le mot « tête » par le mot « cœur ». « Il a donc passé son bail ?» demanda César. « D'hier et par devant notaire, » reprit Ragon. « Il a obtenu 18 ans, mais on exige 6 mois d'avance. » « Eh bien, monsieur Ragon, êtes-vous content de moi ?» fit le parfumeur. « Je lui ai donné là le secret d'une découverte, enfin !»« Nous vous savons par cœur, César, » dit le petit Ragon en prenant les mains de César et les lui pressant avec une religieuse amitié. Roguin n'était pas sans inquiétude sur l'entrée en scène de Claparon, dont les mœurs et le ton pouvaient effrayer de vertueux bourgeois. Il jugea donc nécessaire de préparer les esprits. « Vous allez voir, » dit-il à Ragon, à Pierrot et aux dames, « un original qui cache ses moyens sous un mauvais ton effrayant, car, d'une position très inférieure, il s'est fait jour par ses idées. Il prendra sans doute les belles manières à force de voir les banquiers. Vous le rencontrerez peut-être sur le boulevard ou dans un café, godaillant, débraillé, jouant au billard. Il a l'air du plus grand Flandrin. Eh bien non, il étudie et pense alors à remuer l'industrie par de nouvelles conceptions. » « Je comprends cela, » dit Birotteau, J'ai trouvé mes meilleures idées en flânant, n'est-ce pas, ma biche ? Claparon, reprit Roguin, regagne alors pendant la nuit le temps employé à chercher, à combiner des affaires pendant le jour. Tous ces gens à grand talent ont une vie bizarre, inexplicable. Eh bien, à travers ce décousu, j'en suis témoin, il arrive à son but. Il a fini par faire céder tous nos propriétaires. Il ne voulait pas, il se doutait de quelque chose. Il les a mystifiés, il les a lassés, il est allé les voir tous les jours, et nous sommes pour le coup les maîtres du terrain. Un singulier broum-broum, particulier aux buveurs de petits verres d'eau-de-vie et de liqueurs fortes, annonça le personnage le plus bizarre de cette histoire et l'arbitre visible des destinées futures de César. Le parfumeur se précipita dans le petit escalier obscur, autant pour dire à Raguet de fermer la boutique que pour faire à Claparon ses excuses de le recevoir dans la salle à manger. « Comment donc ? Mais on est très bien là pour chiquer des pour chiffrer, les affaires !» Malgré les habiles préparations de Roguin, Monsieur et Madame Ragon, ses bourgeois de bon ton, l'observateur Pillerault, Césarine et sa mère, furent d'abord assez désagréablement affectés par ce prétendu banquier de la haute volée. À l'âge de 28 ans environ, cet ancien commis-voyageur ne possédait pas un cheveu sur la tête et portait une perruque frisée en tire-bouchon. Cette coiffure exige une fraîcheur de vierge, une transparence lactée, les plus charmantes grâces féminines. Elle faisait donc ressortir ignoblement un visage bourgeonné, brun-rouge, échauffé comme celui d'un conducteur de diligence et dont les rides prématurées exprimaient par les grimaces de leurs plis profonds et plaqués une vie libertine dont les malheurs étaient encore attestés par le mauvais état des dents et les points noirs semés dans une peau rugueuse. Claparon avait l'air d'un comédien de province qui sait tous les rôles, fait la parade, sur la joue duquel le rouge ne tient plus, éreinté par ses fatigues, les lèvres pâteuses, la langue toujours alerte, même pendant l'ivresse, le regard sans pudeur, enfin compromettant par ses gestes. Cette figure, allumée par la joyeuse flamberie du punch, démentait la gravité des affaires. Aussi fallut-il à Claparon de longues études mimiques avant de parvenir à se composer un maintien en harmonie avec son importance postiche. Du Tillet avait assisté à la toilette de Claparon, comme un directeur de spectacle inquiet du début de son principal acteur, car il tremblait que les habitudes grossières de cette vie insoucieuse ne vinssent à éclater à la surface du banquier. « Parle le moins possible, lui avait-il dit. Jamais un banquier ne bavarde, il agit, pense, médite, écoute et pèse. Ainsi, pour avoir bien l'air d'un banquier, ne dis rien ou dis des choses insignifiantes. Éteins ton œil grillard et rends-le grave au risque de le rendre bête. En politique, sois pour le gouvernement et jette-toi dans les généralités comme « le budget est lourd, il n'y a pas de transaction possible entre les partis, les libéraux sont dangereux, les bourbons doivent éviter tout conflit, le libéralisme est le manteau d'intérêts coalisés. Les bourbons nous ménagent une ère de prospérité, soutenons-les si nous ne les aimons pas. La France a fait assez d'expériences politiques, etc. Ne te vautre pas sur toutes les tables, songe que tu as à conserver la dignité d'un millionnaire. Ne renifle pas ton tabac comme fait un invalide, joue avec ta tabatière, regarde souvent à tes pieds ou au plafond avant de répondre, enfin, donne-toi l'air profond. Surtout, défais-toi de ta malheureuse habitude de toucher à tout. Dans le monde, un banquier doit paraître las de toucher. Ah ça, tu passes les nuits, les chiffres te rendent brut. Il faut rassembler tant d'éléments pour lancer une affaire, tant d'études. Surtout, dis beaucoup de mal des affaires. Les affaires sont lourdes, pesantes, difficiles, épineuses. Ne sors pas de là et ne spécifie rien. Ne va pas à table chanter tes farces de Béranger et ne bois pas trop. Si tu te grises, tu perds ton avenir. Roguin te surveillera. Tu vas te trouver avec des gens moraux, des bourgeois vertueux. Ne les effraie pas en lâchant quelques-uns de tes principes d'estaminet. » Cette mercuriale avait produit sur l'esprit de Charles Claparon un effet pareil à celui que produisait sur sa personne ses habits neufs. Ce joyeux sans souci, l'ami de tout le monde, habitué à des vêtements débraillés et dans lesquels son corps n'était pas plus gêné que son esprit dans son langage, maintenu dans des habits neufs que le tailleur avait fait attendre et qu'il essayait roide comme un piquet, inquiet de ses mouvements comme de ses phrases, retirant sa main imprudemment avancée sur un flacon ou sur une boîte, de même qu'il s'arrêtait au milieu d'une phrase, se signala donc par un désaccord risible à l'observation de Pillerault. Sa figure rouge, Sa perruque à tire-bouchon égrillard démentait sa tenue, comme ses pensées combattaient ses dires. Mais les bons bourgeois finirent par prendre ses continuelles dissonances pour de la préoccupation. « Il a tant d'affaires, » disait Roguin. « Les affaires lui donnent peu d'éducation, » dit Madame Ragon à Césarine. Monsieur Roguin entendit le mot et se mit un doigt sur les lèvres. « Chut, il est riche, habile et d'une excessive probité, » dit-il en se baissant vers Madame Ragon. « On peut lui passer quelque chose en faveur de ces qualités-là, » dit Pillerault à Ragon. « Lisons les actes avant le dîner, » dit Roguin, « nous sommes seuls. » Madame Ragon, Césarine et Constance laissèrent les contractants, Pillerault, Ragon, César, Roguin et Claparon, écouter la lecture que fit Alexandre Crottat. César signa, au profit d'un client de Roguin, une obligation de 40 000 francs hypothéquée sur les terrains et les fabriques situés dans le faubourg du Temple. Il remit à Roguin le bon de Pillerault sur la banque, donna sans reçu les 20 000 francs d'effet de son portefeuille et les 140 000 francs de billets à l'ordre de Claparon. « Je n'ai point de reçu à vous donner, » dit Claparon. « Vous agissez de votre côté chez M. Roguin comme nous du nôtre. Nos vendeurs recevront chez lui leur prix en argent. Je ne m'engage pas à autre chose qu'à vous faire trouver le complément de votre part avec vos 140 000 francs d'effet. » « C'est juste, » dit Pillerault. « Eh bien, messieurs, rappelons les dames, car il fait froid sans elles, » dit Claparon en regardant Roguin, comme pour savoir si la plaisanterie n'était pas trop forte. « Mesdames, oh !» « Mademoiselle est sans doute votre demoiselle, » dit Claparon en se tenant droit et regardant Birotteau. « Eh bien, vous n'êtes pas maladroit. Aucune des roses que vous avez distillées ne peut lui être comparée. Et peut-être est-ce parce que vous avez distillé des roses que... »« Ma foi, » dit Roguin en interrompant, « j'avoue ma faim. »« Eh bien, dînons, » dit Birotteau. « Nous allons dîner par-devant nos terres, » dit Claparon en se rengorgeant. « Vous faites beaucoup d'affaires, » dit Pillerault en se mettant à table auprès de Claparon avec intention. « Excessivement, par grosses, » répondit le banquier. « Mais elles sont lourdes, épineuses. Il y a les canaux. Oh, les canaux. Vous ne vous figurez pas combien les canaux nous occupent. Et cela se comprend. Le gouvernement veut des canaux. Le canal est un besoin qui se fait généralement sentir dans les départements et qui concerne tous les commerces, vous savez. Les fleuves, » a dit Pascal, « sont des chemins qui marchent. Il faut donc des marchés. Les marchés dépendent de la terrasse, car il y a d'effroyables terrassements. Le terrassement regarde la classe pauvre, de là les emprunts qui en définitive sont rendus aux pauvres. Voltaire a dit « canaux, canards, canailles ». Mais le gouvernement a ses ingénieurs qui l'éclairent. Il est difficile de le mettre dedans, à moins de s'entendre avec eux, car la chambre, oh monsieur la chambre, nous donne un mal. Elle ne veut pas comprendre la question politique cachée sous la question financière. Il y a mauvaise foi de part et d'autre. Croirez-vous une chose? Les Keller, eh bien, François Keller est un orateur. Il attaque le gouvernement à propos de fonds, à propos de canaux. Rentrez chez lui, mon gaillard nous trouve avec nos propositions. Elles sont favorables, il faut s'arranger avec ce gouvernement dito, tout à l'heure insolemment attaqué. L'intérêt de l'orateur et celui du banquier se choquent. Nous sommes entre deux feux. Vous comprenez maintenant comment les affaires deviennent épineuses. Il faut satisfaire tant de monde. Les commis, les chambres, les antichambres, les ministres. Les ministres, dit Pillerault qui voulait absolument pénétrer ce co-associé. Oui, monsieur, les ministres. Eh bien, les journaux ont donc raison, dit Pillerault. Voilà mon oncle dans la politique, dit Birotteau. Monsieur Claparon lui fait bouillir du lait. Encore de satanés farceurs, dit Claparon, que ces journaux. « Monsieur, les journaux nous embrouillent tout. Ils nous servent bien quelquefois, mais ils me font passer de cruelles nuits. J'aimerais mieux les passer autrement, enfin. J'ai les yeux perdus à force de lire et de calculer. »« Revenons au ministre, » dit Pillerault, espérant des révélations. « Les ministres ont des exigences purement gouvernementales. Mais qu'est-ce que je mange là? De l'ambroisie ?» dit Claparon, en s'interrompant. « Voilà de ces sauces qu'on ne mange que dans les maisons bourgeoises. Jamais les gargotiers... » À ce mot, les fleurs du bonnet de Madame Ragon sautèrent comme des béliers. Claparon comprit que le mot était ignoble et voulut se rattraper. « Dans la haute banque, dit-il, on appelle gargotiers les chefs de cabaret élégants, Véry, les frères provençaux. Eh bien, ni ces infâmes gargotiers ni nos savants cuisiniers ne nous donnent de sauce moelleuse. Les uns font de l'eau claire acidulée par le citron, les autres font de la chimie. » Le dîner se passa tout entier en attaque de Pillerault qui cherchait à sonder cet homme et qui ne rencontrait que le vide. Il le regarda comme un homme dangereux. « Tout va bien, » dit Roguin à l'oreille de Charles Claparon. « Oh, je me déshabillerai sans doute ce soir, » répondit Claparon qui étouffait. « Monsieur, » lui dit Birotteau, « si nous sommes obligés de faire de la salle à manger le salon, c'est que nous réunissons dans 18 jours quelques amis, autant pour célébrer la délivrance du territoire. « Bien, monsieur, moi je suis aussi l'homme du gouvernement. J'appartiens par mes opinions au statu quo du grand homme qui dirige les destinées de la maison d'Autriche, un fameux gaillard, conservé pour acquérir et surtout acquérir pour conserver. Voilà le fond de mes opinions, qui ont l'honneur d'être celles du prince de Metternich. » « Que pour fêter ma promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur, » reprit César. « Mais oui, je sais. Qui donc m'a parlé de cela? Les Keller ou Nucingen ?» Roguin, surpris de tant d'aplomb, fit un geste admiratif. « Eh non, c'est à la chambre !»« À la chambre, par monsieur de la Billardière !» demanda César. « Précisément !»« Il est charmant !» dit César à son oncle. « Il lâche des phrases !» dit Pierrot, « des phrases où l'on se noie !»« Peut-être je me suis-je rendu digne de cette faveur !» reprit Birotteau. « Par vos travaux en parfumerie, les Bourbons savent récompenser tous les mérites. Ah, tenons-nous-en à ces généreux princes légitimes, à qui nous allons devoir des prospérités inouïes. Car, croyez-le bien, la Restauration sent qu'elle doit jouter avec l'Empire. Elle fera des conquêtes en pleine paix. Vous verrez des conquêtes. « Monsieur nous fera sans doute l'honneur d'assister à notre bal, » dit Madame César. « Pour passer une soirée avec vous, madame, je manquerais à gagner des millions. » « Il est décidément bien bavard, » dit César à son oncle.